C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis, idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast. Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Salut Sarah.
Salut Jérémy.
Ravi de te recevoir sur mon podcast.
Bah tout pareil, ravi d'être ton invité aujourd'hui.
Du coup, je t'ai invité pour parler d'un sujet que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises, mais sans jamais le creuser, on va dire en quelque sorte, à savoir cette notion de système nerveux, que tu connais plutôt pas trop mal, il paraît.
Il paraît
que tu travailles dessus. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire comprendre déjà cette notion de système nerveux à mon audience. Ils sont un peu familiers avec, mais c'est pas non plus, on va dire, mon cœur de compétence. Et surtout, comment activer les différents systèmes nerveux. Et là, je parle des systèmes nerveux autonomes, bien évidemment, à savoir le sympathique et le parasympathique. Parce que c'est très clairement ton domaine d'expertise à l'heure actuelle, notamment via la respiration, d'après ce que j'ai compris.
Exactement, Jérémy. Donc moi, je suis Sarah avec deux R, et je dis qu'avec moi, on respire. Je m'intéresse en fait au pouvoir de la respiration, et mon intérêt pour la régulation du système nerveux est arrivé justement quand j'ai commencé à m'intéresser à la respiration. Pourquoi la respiration a-t-elle un impact sur le système nerveux autonome? Tout simplement parce que la respiration est notre unique véhicule d'accès en fait conscient et de contrôle conscient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler notre système cardiaque, on ne peut pas contrôler notre système lymphatique, notre système digestif. Par contre, notre respiration, si. Et donc ça devient un véhicule sur lequel on est capable consciemment de prendre le pouvoir pour pouvoir entamer des transformations à l'intérieur de notre corps. Donc ça m'est venu comme ça, et en réalité, aujourd'hui, il y a énormément de recherches qui se développent, notamment aux États-Unis, avec des auteurs et des chercheurs qui sont éminents. En réalité, elles ont démarré déjà il y a quelques années, mais elles étaient spécifiques au stress post-traumatique. Donc en fait, on s'intéressait vraiment aux personnes ayant subi un énorme stress. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les personnes qui sont sujettes à des stress chroniques ont aussi des symptômes similaires à des personnes qui ont vécu des chocs traumatiques énormes. Donc de fil en aiguille, en fait, j'atterris effectivement sur la régulation du système nerveux, dans le sens que nous avons trois manières de réagir en réalité face à un stress. On a la possibilité de fuir, on a la possibilité de combattre. Donc ça, c'est vraiment la réaction qu'on appelle sympathique, donc du système nerveux sympathique, qui est bien connu dans la régulation du stress. Et puis, en réalité, il y a d'autres choses, parce qu'on a aussi la possibilité de vivre une immobilisation, d'être complètement, en fait, incapable d'agir. Et ça, c'est une réaction qu'on appelle traumatique, en fait. Ça intervient lors d'un grand danger, presque un danger vital. Et donc, dans un cadre un peu plus élargi, ils se sont rendus compte que, certes, on avait le système sympathique et parasympathique, mais que dans le système parasympathique, on avait aussi deux systèmes. Donc, le système parasympathique, c'est le système de sécurité, mais aussi le système, justement, d'immobilisation. Et c'est là que le système parasympathique, lui aussi, se divise en deux. Le système parasympathique ventral, qui est le système de la sécurité, et le système parasympathique dorsal, qui est lui le système de l'immobilisation. Et donc tout cela, le système sympathique, parasympathique ventral et parasympathique dorsal, on pourra le détailler davantage, mais c'est ce qu'on appelle en fait la théorie polyvagale.
Voilà, c'est ce que j'allais dire de Porges.
Exactement.
C'est ça.
Oui, exactement. Aujourd'hui, si je peux citer trois noms, il y a effectivement Porges, Peter Levine et Van der Kolk. Trois chercheurs qui sont en train d'exposer en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse aujourd'hui de plus en plus à notre bien-être. Et tu vas voir, c'est assez étonnant à quel point en fait on peut avoir des connaissances scientifiques aujourd'hui de manière abordable, grâce à toutes les informations disponibles effectivement sur Internet, grâce à l'infoprenariat, grâce à des personnes qui ont digéré ces choses un peu indigestes écrites par des psychiatres, mais aussi parce qu'on s'intéresse à notre état vraiment interne de sérénité et de bien-être. Pourquoi je te dis ça? Parce que Peter Levine, par exemple, s'est intéressé aux théories somatiques, aux pratiques somatiques. Ils se sont rendus compte que, avec Van der Kolk, ils se sont rendus compte que les thérapies verbales atteignaient rapidement leurs limites. C'est-à-dire que si on va voir un psychologue ou un coach, on va verbaliser ce qu'on sait. Si on tombe sur un bon coach avec le pouvoir de la PNL, etc., il peut effectivement ouvrir des solutions parce qu'il a accès à la carte de la personne à travers les mots. Mais il y a des choses dont on n'a pas accès parce qu'elles sont à un niveau beaucoup plus inconscient. Et en fait, elles sont cristallisées dans le corps à travers les différentes expériences de vie et on n'y a pas accès avec les mots. Et donc, notamment, Peter Levine s'est intéressé aux pratiques somatiques, ce que j'appelle pratiques somatiques. Ce sont les pratiques qui impliquent la respiration, l'utilisation du système vocal, à travers le chant notamment, et le mouvement. Et la respiration, le chant et le mouvement sont des activateurs du nerf vague. Et là, on refait à nouveau le lien avec le système nerveux. Et c'est ça qui est super puissant. Donc, en fait, on va piocher dans différentes disciplines et on se rend compte qu'elles ont des conséquences, en tout cas sur notre état de bien-être, qui sont encore sous-exploitées aujourd'hui.
Super. Pourrais-tu nous décrire juste après ce qu'est le nerf vague? Mais avant ça, j'aimerais faire un aparté rapide par rapport à cette notion de paralysie. D'après ce que j'en comprends, moi, d'après les recherches que j'ai faites, c'est un état de survie, très clairement, qu'on remarque souvent également sur les animaux, notamment chez les rongeurs à l'heure actuelle, qui en fait, même également chez les lézards, qui a pour but simplement d'économiser de l'énergie avant de pouvoir fuir. Souvent, quand on voit une souris, elle a souvent tendance à faire la morte quand un chat la prend, la mord ou autre. Et dès que le chat relâche son attention parce qu'il pense que sa proie est décédée, la souris s'enfuit. T'es OK avec ça ou pas?
Oui,
Ok, super.
et d'ailleurs, ce qui est, quand on regarde la théorie de l'évolution, en fait, les systèmes nerveux se sont développés au fur et à mesure
Oui.
du temps. Et effectivement, le système parasympathique dorsal, en fait, a été, enfin, s'est développé à une origine reptilienne, parce que les reptiles ont besoin juste un tout petit peu d'oxygène pour pouvoir survivre. Et donc, face au danger, en fait, ils réduisent considérablement leur métabolisme. Et bah après, il y a d'autres recherches qui ont trouvé que le système, pour le coup, sympathique, lui, s'est développé beaucoup plus tardivement et avec les poissons. Voilà, ça c'est intéressant d'avoir l'histoire
Super
un peu
intéressant,
de... Ouais.
ouais. Et maintenant, peux-tu parler un peu plus du nerf vague? Qu'est-ce que ce fameux nerf vague? On entend souvent parler, du moins quand on s'intéresse un peu à l'aspect santé, on va dire. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est?
Ouais. Alors, juste pour préciser, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je ne suis pas du tout médecin. En fait, je vulgarise et je simplifie les recherches que j'ai, vu que je pratique moi-même donc la respiration, notamment le breathwork, qui est une forme de respiration intensive, pour justement activer le nerf vague. Donc, forcément, je m'y suis intéressée. Donc, tout ce que je dis là est dit de manière très, très simplifiée, absolument pas médicale. Et vous allez voir qu'on n'a pas besoin non plus de rentrer dans le médical pour activer son nerf vague. Et c'est la force. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est en pleine explosion dans le domaine du bien-être. Le nerf vague, c'est le nerf qui relie notre cerveau à l'ensemble du corps jusqu'au système digestif. En fait, c'est l'un des nerfs les plus longs de notre corps et qui communique entre notre cerveau et notre deuxième cerveau, qui est l'estomac. Et donc, énormément d'informations passent au niveau du nerf vague. Et un nerf vague tonique est capable de bien signaliser ce qui se passe entre notre système digestif et notre système cérébral. Donc, quand on a une bonne signalisation, c'est comme si on avait, en fait, finalement, une autoroute qui roule très bien entre les deux. Et donc, on a la capacité de réduire les inflammations. On a la capacité d'avoir un meilleur accès à ses émotions. On a la capacité d'être beaucoup plus alerte. Notre système digestif en est amélioré. Et ce qui est très intéressant avec le nerf vague, donc déjà il s'appelle vague parce que voilà, il irrigue énormément d'endroits du corps, mais aussi on parle de malaise vagal. Le malaise vagal, voilà, c'est quand on tombe un peu dans les pommes, pas de manière, c'est pas grave, mais voilà, on peut perdre en fait un peu on peut perdre connaissance momentanément en fait, que par exemple quand on est debout pendant très longtemps quand il fait chaud, et ben là on peut faire un malaise vagal.
Qu'on nous fait une piqûre et qu'on n'aime pas ça.
Je...
Expérience personnelle.
Ah, ok. Ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. Alors sans la piqûre, par contre, mais c'est assez désagréable. Mais voilà, c'est pas une expérience de mort imminente, quoi. C'est vraiment juste un malaise. Donc c'est un air qui est très intéressant à. On peut en prendre soin justement via notre respiration, via le chant, via des mouvements en fait au niveau de la gorge, au niveau de la nuque.
Comme des gargarismes notamment.
Exactement. Tout à fait. Oui, tout ce qui est en fait tout ce qui active la région de la gorge. Ce qui est très intéressant aussi avec le nerf vague, c'est que en fait 80% des informations vont dans le sens du corps vers le cerveau, alors que 20% des informations vont du cerveau vers le corps. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait c'est notre réceptacle. C'est ce qui permet en fait de nous dire à l'intérieur de nous si on est dans un état justement de danger, si on est face à un stress. Et quand on a l'impression d'avoir des intuitions, quand on ne sent pas quelqu'un, quand on ne sent pas une situation, quand on sent un danger arriver, en réalité, en fait, on a énormément de capteurs qui peuvent nous dire, en fonction du langage non verbal, en fonction de l'atmosphère, en fonction de la température, etc., que là, il y a un danger. Et ça, c'est une capacité de neuroception, enfin de captation de l'information qu'on a, qui monte. Et donc, quand on dit que aujourd'hui, on vit dans une ère quand même qui est vachement contrôlée par le mental. Moi-même, je suis quelqu'un de très mental et c'est pour ça que je me suis intéressée au corps pour contrebalancer et pour ressentir un meilleur bien-être. En réalité, notre corps, il a énormément d'intelligence grâce au fait grâce à toute cette information qui est captée et qui est ensuite remontée.
Aux
Donc, si en plus
informations
elle est bien,
afférentes, oui.
exactement. Donc, si en plus elles sont bien traitées, si elles arrivent et qu'elles sont classées au bon endroit, si on a les réponses appropriées, et c'est là, je pense qu'on peut toucher du doigt aussi la notion de performance, de productivité, etc. Si on a la notion appropriée, le juste montant de stress, la juste réponse, là, on peut aller optimiser ses performances tout en préservant son bien-être. Parce que si on mouline un peu dans le vide et qu'on va à la recherche de la performance alors qu'on est complètement épuisé et pas du tout à l'écoute de son corps, on se prend un mur. Tout simplement. On n'est pas capable, en fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est impossible.
Non mais c'est pas à toi que je vais apprendre, mais le corps est optimisé pour la survie et le cerveau c'est un logarithme à survie, ni plus ni moins. Et dès lors que la survie n'est pas assurée, donc par le biais du nerf vague, par le biais de l'alimentation, du manque de sommeil ou autre, ou du stress également environnant, forcément le corps va louer beaucoup d'énergie pour compenser ce problème de survie-là, pour tâcher de le pondérer on va dire, et du coup l'énergie allouée ici n'ira pas ailleurs, n'ira pas à la cognition, n'ira pas à la motivation, n'ira pas à l'efficacité. Donc effectivement, s'amuser à essayer d'être productif quand on est fatigué ne rime à rien. Pareil, essayer de travailler quand on est malade malheureusement ne rime à rien. Il faut mieux se reposer, s'écouter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde où les gens sont déconnectés de leurs ressentis, de leurs propres signaux envoyés notamment par le corps, comme tu l'as très bien dit jusqu'à présent. Et on arrive à des conséquences dramatiques, mais qui malheureusement n'ont pas lieu immédiatement.
Oui.
Souvent, tu manques de sommeil, et tu tombes pas malade, t'as pas Alzheimer, Parkinson à l'instant T. Tant mieux dans un sens, malheureusement dans un autre. Parce que ce qui fait que 20 ans plus tard, t'as des conséquences terribles. Et tu fais pas de lien, en fait, entre ton mode de vie qui de base est mauvais, en termes d'alimentation, de stress, d'écoute de soi-même, et les maladies que tu développes 20 ans plus tard. On est en plein dans l'exemple de la grenouille que je cite très souvent à la casserole d'eau chaude. Au début, tu mets une grenouille dans de l'eau tiède, elle sent rien. Tu fais monter l'eau, elle sent pas non plus. Jusqu'au moment où l'eau est boue, bah, l'eau est portée à ébullition, pardon, et là, la grenouille décède. C'est progressif. Donc oui, tu as entièrement raison, je te rejoins à 100%. Si tous les facteurs ne sont pas réunis de une, on peut pas être efficace, et chercher à être efficace dans ce moment-là aggrave les choses plus qu'autre chose.
Tout à fait. Pire, je dirais, j'ai déjà eu des cas de personnes qui...
Pire qu'Alzheimer et Parkinson?
Non, excuse-moi. Pire comme mécanisme. Pire comme mécanisme, j'ai déjà eu des cas. Donc, pour expliquer, donc moi, j'interviens énormément en fait sur le collectif sous format d'ateliers en ligne, mais aussi parfois pour des accompagnements individuels. Et donc, sur des accompagnements individuels, j'ai eu des personnes qui, texto, m'ont dit, je n'ai pas le droit d'être malade. Comme si le cerveau pouvait contrôler en réalité, le fait d'être malade ou pas. Mais en fait, c'est un château de cartes. Parce qu'on sait très bien que si, effectivement, il y a une petite bactérie ou un petit virus qui arrive, bah, tout s'écroule. Et donc, on rentre dans justement la zone rouge. Et le problème avec ça, et je me suis longtemps posé la question, moi, du burn-out, si c'était un traumatisme en réalité. Je pense que oui, j'ai pas trouvé énormément de recherches sur le lien entre les deux. Mais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, quand on est coupé de notre corps, on est dissocié en réalité. Et la dissociation, c'est un mécanisme de défense. Et la dissociation, c'est un mécanisme de défense à échelle traumatique. Donc, quand on est dissocié pendant aussi longtemps, je me dis que quand même, il y a un sacré impact sur le corps. Et ensuite, en termes de reconnexion, en fait, on n'y arrive plus par la voie verbale parce qu'on ne sait plus exprimer ses émotions, vu que on ne sait plus les ressentir. Et là, c'est là que des exercices de respiration interviennent. Alors, quand je dis respiration, faut pas juste croire que je parle de voilà cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est vraiment l'introduction, quoi. C'est
C'est une très bonne porte d'entrée, on va dire.
une très bonne porte d'entrée, exactement. Mais la respiration inclut tous les exercices de pranayama, donc au yoga, inclut tous les exercices de breathwork qui sont beaucoup plus intensifs, inclut la méditation active, inclut la sophrologie, qui est plus douce.
L'apnée.
L'apnée aussi, excellent travail avec l'apnée, notamment sur la concentration. Donc en fait, il y a énormément de possibilités à faire. Et pour des personnes déconnectées de leur corps, c'est un cadeau en fait, parce qu'ils arrivent à se canaliser, et ils arrivent à rebrancher les choses et donc à se réassocier.
Oui, puis lorsqu'on est en apnée à poumon vide, très clairement, on n'est pas tourné vers l'extérieur. On
Exactement.
est tourné vers soi. Donc
Exactement.
très clairement. Je fais un aparté rapide avant de continuer par rapport à cette notion de les gens qui ne s'autorisent pas à être malades. On arrive à un stade aujourd'hui, je trouve, et c'est même pas, je trouve, c'est la réalité, où des cadres notamment passent leur temps au travail, etc. Comment dire, retiennent leur maladie en quelque sorte, arrivent en vacances et tombent malades, ou se font mal au dos. Arrivent en retraite également et se découvrent des pathologies, etc. En fait, ces gens-là sont tellement déconnectés qu'ils ont envoyé un signal à leur corps comme quoi, non, là pour l'instant, tu t'autorises aucune faille. Du coup, le corps qui est très bien fait, qui est très résistant, prend sur lui en quelque sorte, mais au moindre relâchement, justement, relâche tout. Et c'est comme ça qu'on arrive souvent à des personnes qui arrivent à la retraite à 65 ans et qui meurent 3 ans plus tard. Et c'est terrible de dire ça, j'en ai conscience, mais c'est la vérité en fait. On est tellement déconnecté d'un coup qu'en fait, le corps prend tout d'un coup. En fait, c'est comme si le barrage cédait et tout arrive d'un coup, quoi. Et c'est très souvent que les gens tombent malades en vacances. Ils comprennent pas. Bah,
C'est
cherche un peu,
ça.
quoi.
Maladie des
Autorise-toi à être
loisirs.
malade. Autorise-toi à t'écouter.
Oui, exactement. Je crois qu'il y a deux noms, maladie des loisirs et syndrome du paradis.
D'accord,
Ça
je ne
sonne.
connaissais pas, toi. Donc, merci pour ces termes-là.
A l'air poétique, mais
Ouais.
effectivement, en fait, pourquoi? Parce que quand on travaille, on est dopé. Dopé à l'adrénaline en réalité. Donc, il suffit juste d'arrêter et du coup, t'as plus ta dope. Et donc là, effet de décompression. Et effectivement, malheureusement, on n'en parle pas souvent. On parle beaucoup des burn-out pour des personnes qui sont en activité. Mais j'ai déjà eu des cas de burn-out de personnes qui sortent à la retraite. Parce que d'un coup, en fait, ça lâche. Et en plus, derrière, il y a tout le travail de crise, de reconstruction, de
Oui, le
qu'est-ce que
problème
je
de
fais de ma
sens, ouais.
vie? Exactement. Donc, c'est vraiment un cap qui n'est pas à prendre à la légère. Et pour cela, c'est bien quand même de pouvoir travailler dessus pas à J-1, tu sais,
Oui.
d'avoir
C'est vrai que
vraiment
c'est
une.
paradoxal, on a 30 ans, toi et moi, c'est qu'on parle de retraite comme si on était proche de ça et qu'on connaissait, mais t'as raison, en fait, ça se prépare à l'amont. Et c'est le mieux du mieux des personnes que j'ai pu côtoyer qui sont passées à la retraite, c'est de faire ça de façon avec une transition en fait. Commencer par diminuer le temps de travail, demander un mi-temps ou un tiers-temps, progressivement jusqu'à compléter justement le temps disponible par les activités qui nous plaisent. Et comme ça, on transitionne tranquillement et non pas de façon brute. Parce que forcément, quand tu travailles au début, t'as l'impression d'être en vacances, mais dès lors que ça commence à perdurer, tu sais plus quoi faire. Et si t'as mis aucune habitude précédemment pour savoir quoi faire durant ta retraite, tu peux effectivement arriver à des problèmes de dépression ou voir des problèmes de couple aussi. Parce que se trouver entre deux partenaires qui n'ont jamais réellement vécu H24 ensemble d'un coup, ça peut aussi créer des tensions. Et c'est vrai qu'il y a souvent les divorces à la retraite. C'est paradoxal, mais bon, on dévient un peu du sujet initial, mais.
C'est vrai. Petite parenthèse, moi j'ai des couples qui viennent respirer ensemble, moi ça me fait trop plaisir.
Ah, tu
Parce que
m'étonnes.
du coup, c'est finalement une petite session de self-care. On a le massage, ok? Le massage du haut. Ça c'est une pause bien-être pour les couples. Par contre, moi je dis toujours que une respiration, c'est vraiment un massage intérieur, en fait, parce que finalement, avec le diaphragme, il y a des choses qui bougent à l'intérieur de soi quand même. Avec les gestes du ventre, avec les gestes de la poitrine, avec la détente qui se fait mentalement. Je sais pas, tu connais Jacobson. La détente, donc Jacobson, petite parenthèse, c'est en fait la détente par la respiration et par le mental. C'est-à-dire que par le mental, là, je suis capable de dire, par exemple, je décide de me détendre au niveau du bas du dos. Et en fait, recommencer ainsi en respirant, en amenant sa respiration vers le bas du dos, permet de relâcher les tensions. Et donc, oui, effectivement, c'est pour ça qu'on ressent énormément de bien-être en activant l'intérieur de soi grâce à sa respiration. Aujourd'hui, je ne comprends même pas pourquoi. Enfin, on est en 2022 et j'ai travaillé sur la respiration pendant plus de 450 jours d'affilée sans jamais m'ennuyer. Et en fait, ça paraît tellement évident, mais on vit dans un monde hyper stressé et en même temps, on a des réponses très simples pour quand même mieux vivre et on ne les exploite pas.
La douleur n'est pas assez forte. Hier, j'en
Bah.
parlais avec une cliente en coaching. En fait, sa douleur n'est pas assez forte. On est médié par deux choses. On l'a dit au début de l'échange, toi et moi, soit aller vers quelque chose, soit fuir quelque chose. Donc, le stress ambiant, en fait, les gens s'y sont habitués, ne voient pas les conséquences immédiates, parce qu'il y en a, et n'ont pas conscience des conséquences futures. Du coup, la douleur n'est pas assez forte et le corps ne passe pas à l'action. Parce que l'énergie à dépenser pour faire ça, même si l'énergie qui est très faible, j'en ai conscience, n'est pas rentable pour le corps, selon moi, et pour le cerveau, bien sûr.
C'est
Et c'est
terrible.
terrible. Mais tous les gens savent quoi faire, hein, mais ne le font pas. Ils savent que manger McDo toutes les semaines n'est pas très bon. Mais à nouveau, c'est la simplicité, plus un côté dopaminergique aussi. Mais les gens savent ce qu'il y a à faire. Mais souvent ne le font pas parce qu'il n'y a pas de douleur ou il n'y a pas de récompense trop élevée. C'est l'un ou l'autre.
C'est vrai, c'est vrai. Je pense aussi que donc ça, c'est une part très responsabilisante, hein, et je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que par rapport à la respiration, en tout cas dans mon domaine, je suis désolée, mais ça a été très mal expliqué. On a donné tellement d'injonctions, par exemple, sur la méditation, qu'aujourd'hui, il faut s'asseoir en lotus, il faut ritualiser le truc, faut faire ceci pour les enfants, faut s'habituer, faut télécharger des applications en ligne, etc. Et en fait, limite, si, moi, dès qu'on me met une contrainte, je le fais pas non plus.
Parce que la barrière à l'entrée est trop forte. Trop de friction, t'y vas pas.
Oui, et puis j'ai plus envie.
D'accord,
Tu
ok,
vois,
je vois.
je ne suis plus sur le bon levier de motivation pour faire ça. Alors que quand on a des outils, moi par exemple, j'ai un énorme levier de motivation aujourd'hui, c'est la musique. Aujourd'hui, je mets ma chanson préférée, je découvre de nouvelles playlists, etc.
C'est quoi ta chanson préférée?
En ce moment, je suis très branchée Enaudi et Pamar, Sofiane Pamar. Pianiste génial.
Ok, je ne connais pas, donc j'écouterai ça à l'occasion.
Exactement, bah, je pourrais te partager toutes mes playlists si tu veux. Et en fait, bah, brancher la musique et rythmer sa respiration sur la musique, en 3 minutes, je suis très bien. Et j'ai fait ma méditation en réalité, mais je l'ai fait de manière très intuitive, je l'ai fait de manière très ludique, je l'ai fait de manière presque inconsciente, parce que petit à petit, bah, la piste s'imprime en fait, et ça devient agréable. Et donc là, pour moi, on est sous une autre forme quand même de juste de prendre une petite pause, de souffler et de se faire du bien en dehors de toute contrainte.
Tu
Et
parles
ça,
de... Ah,
oui,
vas-y, termine, termine.
je t'en prie. Mais en fait, on a mis trop de contraintes, je trouve, aussi sur notre bien-être. Donc il y a une question de communication sur
C'est vrai que c'est le
elle.
côté aussi occidental de tout processer aussi qui ressort là-dedans, très clairement.
Oui.
Petite question, j'ai découvert récemment, et t'inquiète pas, il y a un lien avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui, qu'il y avait des musiques sur Spotify pour la cuisson des pâtes. Une playlist Barilla, du coup la marque de pâtes, qui dure par exemple un quart d'heure pour tel type de pâtes, 5 minutes, etc. Du coup, tu lances ta cuisson, tu mets tes pâtes, tu mets la musique, dès que ça finit, tu arrêtes tes pâtes. Alors pourquoi je te dis ça? Il y a encore un lien, je te rassure. Est-ce qu'il y a l'équivalent en respiration? Des musiques sur un tempo très précis, qui te permettent de respirer de façon presque naturelle. En fait, tu te calques sur la musique. C'est un peu ce que tu as dit précédemment, mais est-ce que toi, justement, tu as trouvé un tempo dans une musique qui n'est pas faite pour ça? Ou s'il y a des musiques spécialement conçues pour avoir un tempo de respiration spécifique par rapport à une recherche de bénéfices spécifiques également.
OK.
Musique rapide, par exemple, pour le côté plus sympathique. Musique plus longue pour le côté parasympathique, si je grossis le trait.
Ouais. Très bonne question. Juste après ça, rappelle-moi de rebondir sur les pâtes parce qu'il y a une, il y a, il y a, je refais le lien aussi avec des carottes. Du coup,
Ok, super. On part en podcast culinaire. Bienvenue sur Marmiton.
Exactement. Alors oui, pour la musique, en fait, donc moi je me suis inspirée, personne m'a appris ça. Enfin, je veux dire, c'est très empirique, c'est très empirique. Et en fait, je suis allée piocher un peu dans la sonothérapie, un peu dans ce qu'a fait Stanislav Grof dans les années 70 pour les expériences psychédéliques en fait sous musique techno. Et en fait, oui, il y a différents rythmes et il y a des patterns répétitifs qui effectivement font entrer dans un état de flow. Et là, donc, connexion, hyper-connexion immersive, le lien avec Mihaly, dont je ne saurais pas prononcer le nom de famille, il est très
Oui,
long.
bah, c'est la personne qui a écrit Flow, tout simplement, oui.
Exactement, oui, c'est
Ouais,
lui,
je
c'est
l'ai plus non plus, je t'avoue.
le
Tu le
nom de
places au
famille.
Scrabble, je pense que tu gagnes. C'est...
Ah, mais je crois qu'il y a 18 lettres.
Ouais. Et beaucoup de consonnes et très peu de voyelles. Peu importe.
Exactement. Et donc en fait, moi, j'ai pioché dans ces différentes disciplines. Et effectivement, aujourd'hui, donc les musiques rythmées, donc j'essaie de trouver des musiques qui ont un certain pattern. Alors, soit je fais des exercices, par exemple, en trois temps, et là, je vais chercher un 1, 2, 3. 1, 2, 3, donc vraiment sur un rythme musical. Soit je vais chercher un exercice justement qui va plus être de l'ordre de la relaxation, donc qui va aller activer le parasympathique. Et là, je vais aller chercher donc des rythmes beaucoup plus lents et sur lesquels on peut expirer beaucoup plus lentement, parce que l'expiration active le parasympathique et l'inspiration amène de l'énergie. Donc, quand on veut activer, eh ben, on va tirer beaucoup sur l'inspiration, en cherchant des rythmes qui vont donner en fait envie d'inspirer, un peu comme sur le sport, donner envie de faire le prochain pas. Et après, quand on est voilà sur de la relaxation, des rythmes plus lents. Par rapport aussi à la musique, j'ai placé un petit mot, mais très intéressant, je pense. Dans les années 70, aux États-Unis, on faisait quelques expériences psychédéliques hein, sous substances, notamment la LSD, pour des libérations émotionnelles. C'est l'origine du breathwork d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un énorme mythe autour du breathwork, comme quoi ça fait faire des tripes à base d'oxygène, etc. Mais en fait,
Et
c'est
du
vrai.
microdosing aussi. Les deux viennent de là, je pense.
Oui, alors oui, pour le coup, contrôlé. Mais là, je te parle vraiment de donc
Pardon.
dans les années 60, effectivement, c'était voilà la consommation de stupéfiants quoi. Et après, justement, la LSD a été interdite. Donc, il a fallu sevrer énormément de personnes. Et c'est là que bah, justement Stanislav Grof, qui est un psychiatre qui est toujours en vie aujourd'hui, il y a des vidéos de lui sur YouTube, c'est assez rigolo, il a 91 ans, s'est intéressé à la respiration avec la musique pour reconstituer le même effet de libération émotionnelle que l'effet sous LSD. Et donc, il a initié en fait le mouvement justement du breathwork. Donc, effectivement, le micro, je ne saurais pas approfondir sur le micro-dosage ou la consommation de psychédéliques à des vertus thérapeutiques. Ça se développe énormément. J'ai vu passer ça notamment sur Instagram et sur TikTok beaucoup. Mais en tout cas, lui, vraiment, s'est recentré sur une pratique qui n'a pas besoin justement de produits. Et donc, il s'est intéressé au mouvement de la musique et effectivement, en respirant d'une certaine manière sur la musique, il est possible effectivement de reconstituer un état de flow. Cet état de flow amène un état en fait d'association à l'intérieur de soi et progressivement aussi de dissociation. Comme un coureur après 20-30 minutes qui commence à avancer sans être là. Il continue en fait à courir et il l'appelle runner's high parce que au bout d'un certain temps, un coureur est dissocié en fait. Et il vit justement comme si, enfin, il vit un état de bien-être comme si son corps avançait tout seul et que ce sont les émotions qui portent. Et c'est ça qu'on arrive à refaire avec la respiration et la musique.
Et en plus, ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est un outil non pharmacologique.
Ah bah non.
Parce qu'il n'y a aucune substance à prendre, comme tu l'as très bien dit. En plus, ça coûte nul.
Bah oui.
Parce que ça coûte rien, quoi. À part un peu de temps, bien sûr, mais c'est un temps qu'ils n'ont pas dépensé, mais qui est plus investi.
Clairement. Et je trouve que c'est un super pouvoir. Et aujourd'hui, dans nos modes de vie sédentaires, respirer de manière active sur de la musique, enfin, je veux dire, il n'y a pas plus simple.
Et justement, avant que tu parles de carottes, parce que
Oui.
c'est le sujet que tu m'as lancé tout à l'heure, que penses-tu de la position assise en lien avec la respiration? Parce qu'on est constamment assis à l'heure actuelle, voire même souvent plus avachi que assis. Est-ce qu'il y a un impact par rapport à ça, en termes d'amplitude, en termes de forme de respiration, parce qu'on peut respirer de niveau claviculaire, au niveau ventral, etc. Est-ce qu'il y a un impact entre les deux?
Clairement.
Ou un lien plutôt.
Quand on est avachi, on a une respiration haute. Notre diaphragme n'est pas optimisé, en fait. Enfin, l'utilisation, elle n'est pas optimale. Il prend moins sa place. La cage thoracique est comprimée. Notre souffle est beaucoup plus court. Donc, en position assise, une session, en fait, démarre toujours en position assise pour dégager les épaules, pour dégager les côtes. Et je dis toujours, ouvrez votre cage thoracique comme si vous étiez en train d'ouvrir votre cage et libérer, en fait. Vraiment, le buste, ça fait vraiment de... En fait, ça crée de l'espace à l'intérieur de soi. Et cette sensation, elle est très agréable. Ensuite, le diaphragme qui travaille et qui bosse bien parce qu'on amène justement la respiration davantage par le ventre, crée aussi un état de bien-être à l'intérieur du corps qui va jusqu'à soulager le dos. Parce que le diaphragme, en fait, relie notre cage thoracique. Enfin, donc le diaphragme est positionné en dessous de la cage thoracique et en fait est relié au dos. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs dans le dos aujourd'hui, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais en fait, c'est qu'ils ont un diaphragme bloqué. Et ça, un ostéopathe peut s'en rendre compte. Donc, position assise d'abord. Et après, moi, j'aime beaucoup travailler allongé. Alors, notamment chez les sophrologues, beaucoup vont dire « Ah, mais en fait, travailler allongé, c'est risqué parce que la personne qui consulte risque de s'endormir. » Alors pas du tout, en tout cas depuis que j'essaye ma méthode, là on est à plus de 500 participations. En fait, même si les personnes sont allongées, avec l'effet de la musique et avec l'effet de la respiration active, elles sont quand même hyper éveillées. Si à un moment il y a en fait une sorte d'endormissement, c'est plus un état modifié de conscience qu'un état de vraie relaxation. Donc créer de l'espace à l'intérieur de soi, clairement.
Et arrête-moi si je me trompe, justement, quand on est assis, du coup, tu l'as expliqué, le volume d'oxygène que l'on peut prendre est inférieur à la position debout, on va dire. Du coup, ce qui induit une fréquence respiratoire qui est plus élevée.
Oui.
On est OK. Donc, une stimulation du système nerveux sympathique.
Exactement.
Donc, la position assise peut induire un stress qui n'est pas spécialement, on va dire, important, mais qui est plus latent et qui peut se rajouter à différents stress environnants, d'accord ?
Stress chronique. Alors, si tu ajoutes à ça l'apnée de l'email, il y a eu une revue qui a été éditée il n'y a pas très longtemps.
Ça m'intéresse.
Pas très longtemps, l'apnée de l'email. Alors, controversée, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de base scientifique, mais je pense que, enfin, moi, je l'ai expérimenté. Il y a quand même beaucoup de personnes qui l'appuient. En fait, c'est un magazine britannique de mémoire qui a sorti un article sur l'apnée du mail. C'est-à-dire qu'on serait en apnée à chaque fois qu'on reçoit un mail. Le moment du pop-up du mail, en fait, nous crée un moment d'apnée. Comme si on retenait notre souffle et qu'on se crispait. Donc, t'imagines si tu reçois 200 mails par jour et que ça te fait cet effet, ça induit effectivement un stress chronique et latent.
Mais ça, ce qui peut s'entendre, parce qu'un email peut potentiellement annoncer de mauvaises nouvelles. Et le corps a tendance à avoir un biais de négativité. Du coup, quand tu es face à un stress, tu bloques ta respiration généralement.
Et surtout, tu peux extrapoler ça à toutes les notifications sur les réseaux sociaux, aux appels qu'on reçoit. Alors moi, pour le coup, par exemple, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop recevoir des appels. Parce que je trouve ça trop intrusif d'un coup, il faut que je parle. Je n'ai plus l'habitude parce que je me dis, au pire, je recevrai un message. Mmh. Et en fait, je sais qu'un appel, moi aujourd'hui, mais en tout cas, me provoque justement l'apnée de l'appel.
Okay.
Donc en étant assis, en ayant effectivement tendance à travailler en plus sur un ordinateur, en ayant le buste vers l'avant, sur une posture qui est renfermée. Alors c'est un exercice que tu peux essayer et que les personnes qui nous écoutent peuvent essayer aussi. Des fois je le fais faire pour des prises de conscience, renfermer les épaules et se renfermer à l'intérieur de soi et respirer par la bouche, double peine.
Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce sujet de la respiration buccale, ouais.
Et là, en fait, je le fais faire une minute, ça suffit. C'est tellement désagréable, la personne.
Tu suffoques.
Oui, plus jamais.
Il faut que tu me parles de carottes.
C'est vrai. Alors, on parlait de musique. Très intéressante la musique et les sonothérapeutes s'en sont rendus compte. Notre corps est fait à 70-80% d'eau. Voilà, ça dépend un peu des études et de ce qu'on peut lire. Ce qui veut dire que notre corps transmet les ondes, notamment les ondes sonores. Et je ne sais pas si tu as déjà vu une enceinte Bose, par exemple, qui sort un gros son. En fait, elle bouge. Et donc, on voit les vibrations. Et les vibrations sonores sont hyper puissante. Si tu mets enfin, si tu mets une grosse sono face à une fenêtre, les vitres se brisent. Et donc, en fait,
Oui,
il y
on
a
a vu les gens
énormément.
qui mettent des féculents des fois dessus sur des vidéos, on voit les féculents sauter, ou mais qui mettent de la peinture aussi sur les enceintes pour faire des
Oui,
tableaux.
oui.
Donc on voit réellement cette notion de vibration, ouais. On peut le voir en tout cas facilement
Exactement.
sur Internet.
Exactement. Et donc on est fait d'eau, mais les légumes aussi sont faits d'eau. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont amusés à exposer des carottes à différents sons, à différentes fréquences hertziennes, et à voir comment elles pouvaient croître en fonction de ces fréquences-là. Et du coup, il y a énormément de vidéos aussi sur YouTube qui montrent des carottes déformées lorsqu'elles écoutent des musiques tristes, et des carottes en très bonne santé lorsqu'elles écoutent d'autres fréquences plus saines. Et donc,
Ok,
il
bah j'irai creuser ça, ouais. Ok.
y a... Ouais, hyper, parenthèse, hyper... Enfin, c'est chouette à savoir, quoi.
Génial. Et peux-tu maintenant nous présenter quelques exercices à réaliser? Typiquement, soit une personne qui a besoin de se booster avant un entretien, avant je sais pas, un événement en jeu, on va dire, une réunion, peu importe, et également des exercices pour une personne qui a le plus besoin de se relaxer.
Oui.
Donc soit sympathique, soit parasympathique.
Ok. Là, je vais en proposer, sachant que si ça t'intéresse, je pourrais aussi te passer un lien. Enfin, j'ai des enregistrements en fait qui
Ok.
sont audio en musique et qui sont gratuits, justement pour que les personnes testent différentes formes. Alors, quand on veut faire monter un peu l'adrénaline, je vais commencer par celui-ci. Faire monter l'adrénaline, en fait, peut être très agréable aussi, hein, parce que ça nous aide aussi à ressentir notre stress intérieur et une part aussi d'énergie montée à l'intérieur de nous. Donc, en plus pour les personnes qui sont très dans le mental, qui sont à la recherche de sensations, ça peut être très agréable par la respiration consciente de provoquer cet état un peu plus dopaminique.
Parce qu'il y a un côté défi aussi par rapport à ce
Exactement.
moment. C'est vrai que les gens qui aiment se calculer, qui aiment se dépasser souvent, aiment ces exercices de respiration qui ont tendance à augmenter les rythmes cardiaques.
Ouais,
C'est vrai que c'est très
exactement.
pratiqué au niveau des sportifs notamment d'ailleurs.
Oui. Les sportifs, les personnes qui pratiquent la plongée et les personnes qui connaissent Wim Hof avec l'exposition au froid. Et donc, un exercice qui peut être hyper, hyper efficace, et si vous voulez tester pendant que je parle, c'est que je vous propose de juste vous recentrer un instant et commencer à prendre des grandes inspirations en gonflant le ventre. Surtout corriger, ne pas rentrer le ventre à l'inspiration, sortir le ventre à l'inspiration pour avoir une respiration correcte.
Idéalement,
Et
toucher
on...
votre ventre avec vos mains. Un
Exact.
pas rapide, mais faire la proprioception, pardon, qui peut aider par rapport à ça.
Ouais. Et la main peut monter jusqu'à 10-15 cm. Hein. Vraiment, on peut exagérer le mouvement. Et au moment, en fait, où vous sortez le ventre à l'inspiration, vous pouvez vous mettre à respirer par la bouche, ce qui est une respiration dysfonctionnelle, mais qui est une respiration qui va amener tellement d'oxygène qu'en fait, elle va activer le système d'alerte à l'intérieur de soi. Et donc, quand on amène la respiration par le ventre et qu'on amène une seconde respiration par la poitrine, donc ça fait deux inspirations, on amène énormément d'oxygène d'un coup et on fait des expires très, très lentes. Et donc, ça fait... Et en le répétant comme ça pendant 1 minute, en fait, on sent sa température changer, on a la chair de poule et en fait, on sent qu'on active notre système sympathique et on peut vraiment le ressentir de manière physiologique en fait. Hein. On ressent notre mental qui commence à se dire oh là là, je commence à paniquer et tout. Et juste après ça, 1 minute et faire un petit moment d'apnée. Et là, on est capable de battre nos records d'apnée.
Ok, que ce sont les baroréceptors qui envoient ces signaux un peu afférents de stress, de panique, de c'est pas agréable.
Je ne sais pas ce que c'est que les
En
barorécepteurs.
fait, c'est les récepteurs à pression qu'on a dans le corps
Ok.
humain.
Ah, de barre
Justement,
de. Ok.
des barreaux, toi, barreaux comme un baromètre.
Ouais. Et
Justement,
bah.
font comprendre au corps qu'il y a trop de pression au niveau de l'oxygène et justement qu'il faut l'évacuer, quoi. Et c'est ce surplus d'oxygène qui est désagréable et qui crée le stress dont tu parles.
Ok. Ok, j'avais pas du tout connaissance du mot.
Ok, ben voilà.
Effectivement, en fait, donc moi, c'est plus en termes de sensation qu'on le ressent. C'est qu'en fait, comme. On amène énormément d'oxygène. Déjà, on n'est pas habitué. De deux, on est statique alors qu'on envoie une information de danger. Et donc, forcément, ça provoque un effet mental vraiment de notre corps qui nous dit cours, 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 cours et décide maintenant si tu dois fuir, 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 fuir. Et en fait, c'est ça qui se passe en termes de sensations. Mais je savais, en fait, d'ailleurs, tu soulèves une question très intéressante, je pense, qui mériterait d'être creusée à une prochaine occasion. C'est quand on est en apnée après être hyper oxygéné, En réalité, normalement, on a un certain dosage d'oxygène. On n'est pas censé le conserver. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on peut rester 4 minutes en apnée juste après 10 minutes d'hyperventilation?
Un effet intéressant par rapport à ça, c'est l'effet Bohr que
Oui.
tu connais. Voilà. En fait, tu le bah, explique-le peut-être, vas-y. T'es mon invité, donc si tu veux expliquer, n'hésite pas. Après,
Ouais,
je
je
peux le
t'en
faire comme
prie.
tu veux.
Non, non, vas-y.
En fait, pour faire ça, grosso modo, on a souvent cru que le CO2 était avant tout un déchet qu'il fallait rejeter. Alors qu'au final, on s'est aperçu, alors je ne sais plus qui a fait les recherches par rapport à ça, peu importe, comme quoi le CO2 est plus une clé qu'autre chose. La clé qui permet à l'oxygène de rentrer dans les cellules. Et en fait, là, l'effet Bohr se met en place. Qu'est-ce que l'effet Bohr? C'est une capacité à tolérer le CO2 dans notre corps. Et donc, plus on a cette capacité à tolérer le CO2, plus on va exploiter d'une part l'oxygène que l'on va inspirer, et plus d'autre part, on sera capable également d'inspirer correctement, dans le sens avoir des respirations qui sont beaucoup plus longues et plus lentes que les personnes lambda à l'heure actuelle. Le bénéfice, il est où? On l'a évoqué tout à l'heure avec Sarah, c'est le fait que grâce à ça, on va diminuer notre fréquence respiratoire, donc avoir moins d'inspire et d'expire par minute, ce qui va induire de façon générale plus un état de relaxation, de détente et de maîtrise qu'un état de stress lié à une sur-respiration, en quelque sorte. Et ça se travaille. En fait, l'idée, c'est quoi pour le travailler? C'est retenir sa respiration tout simplement. C'est désagréable. C'est horrible, même par moment. Moi, je fais beaucoup d'exo par rapport à ça. Tu as cette notion de gorge nouée, de contraction. C'est vraiment ultra désagréable. Sauf qu'on peut le travailler au fur et à mesure. En plus, ça se gagne assez rapidement. On peut le vérifier avec le test Bolt de mémoire. On pourra le décrire après si tu as envie. Du coup, on peut effectivement, au bout de quelques semaines, augmenter sa tolérance au CO2 et donc avoir une meilleure respiration au quotidien. Et vu que l'oxygène, c'est le carburant, bah, c'est l'énergie principale du corps humain, forcément, plus on va être capable d'exploiter l'oxygène inspiré, plus on sera efficace au quotidien.
Ouais, génial. C'est magique. Les plus grands sportifs ont les plus lentes, ont les plus petites fréquences cardiaques.
Bien sûr, bah, même au niveau après, du coup, aussi, ça se retraduit au niveau de la fréquence bah, cardiaque, ce que tu viens de dire, pardon, j'ai décroché une seconde. Et du coup, comment mesurer ça? En fait, c'est le test Bolt, il y a plusieurs solutions. L'idée, c'est quoi? Soit on le fait en marchant, soit on le fait allongé. Allongé, simplement, on prend deux inspirations et expirations normales. Ce qui est très compliqué quand on le verbalise, parce que vu que c'est normal, dès qu'on y pense, forcément, on a tendance soit à allonger, soit à réduire. Et après, on se chronomètre à poumon, on se chronomètre en rétention d'oxygène. Et simplement, on voit le temps qu'on fait. Après, il y a un tableau par rapport à ça. Et dès qu'on a le moindre soubresaut, on va dire, le moindre besoin de respirer, on arrête le minuteur. Et après, l'équivalent en marche, où cette fois-ci, ce ne sont pas des secondes qui sont à comptabiliser, mais des pas. Et à nouveau, dès qu'on a le moindre ressenti du besoin de respirer, on arrête. C'est pas un concours d'apnée, c'est vraiment une notion de ressenti. Dès qu'il y a un petit nœud dans la gorge ou autre, on arrête et on regarde son temps ou son nombre de pas et on le compare par rapport à celui de la veille.
Et on progresse très vite.
Oui, très très vite. C'est vrai
C'est
qu'au
ça qui
début,
est
c'est
ouf.
désagréable, etc. Mais c'est vrai que la marge de progression est assez énorme. Ouais.
Ouais. Donc, en fait, l'activation sympathique, elle est intéressante. Maintenant, c'est pas un mode de vie, hein. Clairement,
Ah non, très clairement.
c'est absolument pas ce qu'on est en train de dire. Mais effectivement, voilà, il y a
C'est un outil à l'instant T, quoi.
exactement. Et je trouve qu'on l'a un peu éludé parce qu'aujourd'hui, dans le monde du bien-être, on va activer le parasympathique, on va chercher des relaxations, des méditations, tout ce qui nous fait du bien. Mais franchement, une activation sympathique avec ensuite une apnée et un petit moment d'intégration, pour moi, c'est ce qui marche le mieux en fait en termes de récupération rapide. Donc ça, c'est pour l'activation sympathique, si vous voulez monter un peu le faire monter le stress de manière agréable, je dirais. Et sinon, il y a l'activation parasympathique. Donc là, je parle vraiment du parasympathique ventral, donc du système vraiment de sécurité. En fait, la logique est très simple, c'est qu'il faut ralentir à l'expiration. Notre expiration est notre pédale de frein, et notre inspiration est notre pédale un peu d'accélérateur. Donc, plus on va ralentir sur l'expiration et plus on va amener un état de détente. Et la respiration, je pense, la plus connue qui amène le sommeil, c'est la respiration 3-7-8. 3 temps à l'inspire, 7 en apnée, 8 temps à l'expire. Il y a énormément de vidéos sur YouTube. Et en fait, à force d'expirer lentement, et ben finalement, on sombre petit à petit dans le sommeil. Après, en fait, entre le sympathique, où je te disais, par la bouche pour créer un état d'hyperventilation consciente et maîtrisée, et la respiration du sommeil, il y a un énorme panel, parce qu'en réalité, si on apprend à faire varier le rythme entre l'inspire et l'expire en fonction de notre besoin, pour moi, il n'y a plus trop de règles qui se tiennent, en fait. Parce que je peux faire une respiration carrée sur 4 temps, sur 5 temps, sur 6 temps, sur 7 temps, si ça me plaît. Je peux faire un triangle poumon plein. Et puis le faire varier, je peux faire un triangle poumon vide, puis le faire varier aussi.
Oui, puis le faire en marchant, allongé, en pente, en descente.
Ah, mais vraiment un puits illimité d'exercices possibles. Et moi, j'en arrive à faire des chorégraphies.
Oui.
Je te promets, je construis des chorégraphies respiratoires sur 75 minutes. Mais derrière, les gens, ils vivent enfin une extase en fait, parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe, mais c'est un reparamétrage qui va jusqu'à une régulation émotionnelle de je ressens la peur, mais je la maîtrise, je ressens la joie. Ah là, je me sens fort. Ok, mais là, en fait, je me suis sentie un peu triste quand même. Peut-être qu'il y a une pensée là qui m'a un peu attristée. Ok, et en fait, c'est un voyage à l'intérieur de soi qui se fait juste en partant effectivement de la respiration.
Et ça prend pas beaucoup de temps.
Non.
C'est l'avantage qu'on n'est pas sur une méditation d'un quart d'heure. On est sur une
Bah,
petite des fois qui peut durer 5 minutes. Après, ça dépend effectivement des occasions, mais
ouais.
on peut l'activer très facilement. Dans le système que l'on veut, on peut l'activer très facilement par la respiration.
Ah, mais
Et où on veut.
carrément. Ah, mais carrément. Aujourd'hui, en tout cas, à force de pratique, j'ai tellement un ancrage fort que, en fait, même par exemple, je fais des sessions collectives en présentiel, ok, et je peux être présente devant un groupe. Et des fois, il y a des moments stressants où je perds mes mots, voilà, comme sur n'importe quelle intervention, quoi, le stress de préparation. Et en fait, juste en prenant une grande inspiration bien recentrée, ça y est, ça se ressent direct, en fait. Et ça, c'est un vrai cadeau que d'avoir énormément d'ancrage positif, pardon. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler d'ancrage. Donc, c'est un mot un peu PNL, c'est-à-dire que on ancre une respiration par une sensation. On connecte directement une croyance, en fait, à l'intérieur de soi avec des réactions corporelles. Et ça, quand on le fait, par exemple, via notre respiration, eh ben, c'est l'outil le plus gratuit, le plus puissant. Et en plus, on l'a tout le temps sous notre nez, donc c'est le plus pratique. On peut aussi utiliser les odeurs. C'est l'ancrage olfactif qui reste le plus longtemps en termes de durée. On s'en
De
souvient, c'est pour ça que...
l'aromathérapie. Ou non,
On
pas du
peut...
tout. Non, juste c'est un souvenir.
Exactement. L'aromathérapie, on peut l'utiliser effectivement, mais je pense qu'elle a d'autres vertus. Je ne suis pas une bonne connaisseuse du sujet, mais l'aromathérapie va utiliser énormément en fait d'huile essentielle et va jusqu'à étudier en fait la consommation d'huile essentielle et sur les niveaux inflammatoires dans le corps, etc. Donc c'est vraiment c'est une discipline. Là, je pensais vraiment à l'ancrage olfactif. On parle de la madeleine de
De
Proust, on
Proust.
parle de la tarte aux pommes de la mamie. Tout ça, en fait, ce sont des odeurs qu'on a dès l'enfance et qu'on garde. Et les plus grands petits tips, mais alors ça, c'est le tips magique, les plus grands intervenants devant des conférences, ceux qui font les TEDx, etc., les conférenciers internationaux, en fait, ils font un pchit-pchit de leur parfum préféré sur leur petit bout de papier. Et en fait, c'est un ancrage de sécurité tout de suite et qui reste. Et c'est pour ça que des fois, les parfums de bébé, les parfums qu'on a, etc., ben en fait, ils nous mettent vachement en sécurité et que sentir l'odeur peut raviver ce sentiment de sécurité de manière assez radicale.
Ce qu'on appelle le phénomène de réminiscence. On apprend l'information, c'est le fait à partir d'une idée ou d'un souvenir de recontextualiser un ensemble d'éléments qui gravitent autour. Ouais.
Ouais.
Je m'en sers en mémoire de mon côté. Ouais.
Et donc ça, c'est un ancrage olfactif. On peut avoir aussi un ancrage auditif avec la musique. Combien de personnes mettent juste un son et savent que c'est le son où il faut courir, ou alors c'est le son où il faut dormir, les enfants avec les berceuses. Donc il y a énormément de choses comme ça, d'associations qu'on peut faire qui sont très intéressantes pour stimuler le parasympathique.
Super intéressant, super intéressant. Et du coup, tu proposes toi des stages par rapport à ça?
Bah écoute, alors des stages, j'ai pas eu encore l'occasion de faire des retraites. J'essaie de vraiment rester focus aujourd'hui sur un seul produit que je développe. Mon produit phare, c'est un atelier en ligne où les gens viennent décompresser en fait, en musique, en respiration, en coaching. J'allie les trois.
C'est en présentiel, tu
Les
sais,
500
en
participants.
direct?
C'est en
Ouais,
ligne,
c'est le
en
mot cherché.
direct,
Ok.
ouais. Exactement. Je guide en direct. Il n'y a pas moyen de flancher. Je suis là. Les caméras sont allumées. Il y a vraiment une bonne ambiance en fait. C'est devenu un peu comme le cours de yoga de plusieurs personnes qui se joignent pour ressentir leur bien-être de la semaine. Donc vraiment déjà rien que le développement de la méthode pour ce produit-là m'a pris plus de 6 mois. Je l'ai posé, etc. Et j'ai vraiment envie d'en faire une méthode comme une vraie discipline à part entière. Et j'exerce dans une salle à Paris une fois par mois. Devant des groupes. Et après, bah, je m'occupe d'organiser des team building et des interventions en fait à la demande, plus voilà d'ordre bien-être, plus pour expliquer, comme on vient de le faire sur ce podcast, sensibiliser à la santé mentale. Et puis moi aussi, pour la petite histoire, comment est-ce que j'en suis arrivée là? C'est que je vivais justement comme les cadres de la défense, hyper comprimés par leur mode de vie, jusqu'à un peu en perdre le goût et le sens. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée au yoga, au théâtre, et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'est finalement la respiration qui revient. Et après, je suis kinesthésique, et moi, la musique, en fait, ben je ressens énormément le rythme à l'intérieur de moi et je l'imprime. Et donc, j'ai commencé à faire mes propres tests. Après, j'ai découvert le breathwork, et de fil en aiguille, en fait, c'est devenu un métier. Et donc, j'ai quitté mon job il y a un an, et aujourd'hui, je suis en plein temps là-dessus.
Tu faisais quoi avant? Rappelle-moi.
J'étais consultante en finance.
D'accord, ce qui n'a rien à voir alors. Mais je comprends le
Ah
côté
non, pas
vie
du
un
tout.
peu constamment sous stress, sous pression, le fameux métro
Ah
boulot
oui.
dodo en quelque sorte.
Après, ça m'a vachement inspirée pour développer justement un produit pour les personnes qui sont vachement dans le mental, déconnectées de leur corps, etc. Parce que je l'ai été. Moi, je pense que j'ai compris la définition. Enfin, j'ai su définir une émotion à 30 ans. Je ne sais pas si tu connais la roue de Plotnik.
Si,
Poutchnik, je ne sais
avec
pas
le spectre
exactement
des
comment on
couleurs,
prononce.
etc., avec le croisement des émotions, ouais.
Exactement. Moi, j'ai découvert à 30 ans, mais j'avais pas du tout de vocabulaire pour exprimer un ressenti. Je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Et donc, effectivement, les méthodes sont très appropriées, très adaptées pour les femmes et les hommes modernes. Et je mets un point d'honneur à ce que mes cours soient mixtes. Et en fait, et c'est très bien. Et j'encourage parce que c'est pas un truc de meuf.
Je vais dire un truc qui risque de faire un peu polémique, mais peu importe. Tu parles d'émotions, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai sujet avec les enfants par rapport à ça. Actuellement, tout le monde, tous les parents disent que leurs enfants sont hypersensibles. Non, en fait, c'est faux. Les enfants ne sont pas connectés. Je vois tes yeux un peu révulsés, donc je pense que tu vas
Oh
abonder avec ce que je vais
mais
dire.
j'ai
C'est que les
fait
enfants
une
sont
tête.
déconnectés par rapport à leurs émotions. Et j'ai eu le cas pas plus tard que c'était quand? C'était dimanche. Dimanche, j'étais à un parc de jeux avec mes deux enfants. Et mon plus grand n'avait pas dormi durant sa sieste et a pété une crise au milieu du parc. Mon plus grand qui a 4 ans. Et là, t'as un enfant qui vient vers moi et qui fait, ah, il est méchant, il est pas gentil, hein. Parce qu'en fait, cet enfant, je pense, je l'ai constaté du coup avec le recul, que ses parents, dès que lui pleurait, disent en fait, t'es pas gentil. T'es pas un bon garçon, t'es pas gentil. Et en fait, aujourd'hui, les parents ont tendance à limiter les émotions, être pas gentil ou être gentil. Et les enfants ne savent plus exprimer des émotions. Et moi, depuis que mon enfant est tout petit, et surtout ma compagne d'ailleurs, je lui attribue plus ses mérites qu'à moi, on cherche à faire comprendre les émotions à nos enfants. Là, tu es triste. Là, c'est de la jalousie. Là, c'est de la peur, du stress, etc. Et aujourd'hui, on a un enfant qui sait précisément mettre le doigt sur chacune de ses émotions, qui sait les vivre aussi. Il me dit, j'ai besoin de pleurer. Oui, t'as raison, mon fils. Pleure. T'as beau être un garçon, ne pleurer, c'est pas toi, pas un homme, toi. Ce qu'on disait avant, toi, tu pleures, t'es pas un homme. Si.
Ah oui.
Pleure, accepte tes émotions, comprends-les. Et c'est vrai que cette notion, cette vague d'enfants hypersensibles, zèbres, tout ce que tu veux, etc., pour moi, simplement, ce sont des enfants, pour la majorité d'entre eux, bien sûr, qui sont déconnectés de leurs émotions, avec des parents qui constamment mettent des soupapes par rapport à ça, enfin, qui les contraignent par rapport à un spectre d'émotions qui est très limité. Soit t'es pas gentil, soit t'es gentil, soit t'es joyeux, soit t'es en colère. Sauf que le spectre est beaucoup plus large. T'en penses
Ah
quoi?
mais je pense qu'on va là on va atteindre je pense un niveau de podcast de Uberman.
Allons-y,
Tu fais le traduire s'il te
ça me va très bien.
plaît. Sujet très vaste, un sujet que j'adore. J'essaie de décomposer pour donner le maximum d'outils
Vas-y,
et
vas-y.
d'informations et mais en tout cas je pense que c'est vraiment un sujet à part. Déjà HPE n'est pas un diagnostic en fait. HPE aujourd'hui utilisé à tort et à
Haut
travers
potentiel
et en fait
émotionnel, attends, HPE, ouais, c'est ça, ouais.
exactement.
Il y a tellement de termes maintenant, d'acronymes, de etc., que je t'avoue, même moi, je suis perdu, hein.
Donc dans les neuroatypiques, on a HPI et TDAH, donc hyperactif et trouble de la concentration. Et en fait, ce sont voilà des comportements qui peuvent être discutés avec le psychologue. Et aujourd'hui, voilà, il y a des psychologues qui sont capables de effectivement d'évaluer, de donner des diagnostics. HPE, aujourd'hui, haut potentiel donc émotionnel, bah, c'est un peu un mot utilisé via les réseaux sociaux en fait
Oui.
et qui est devenu très fréquent. Et
C'est un fourre-tout.
à ma connaissance, contrairement donc au HPI, il n'y a pas forcément de base scientifique derrière et de tests qui sont faits par les psychologues. En tout cas, c'est très controversé. De deux, aujourd'hui, énormément d'hypersensibles, en fait, donc je parle d'adultes, sont des personnes effectivement qui ont très longtemps été déconnectées de leurs ressentis. Et donc, il y a comme un effet de compensation qui, du coup, en fait, des émotions qui n'ont pas été digérées et acceptées au fur et à mesure, en fait, entraînent l'effet inverse de trop plein d'émotions. Et donc, on ne sait plus gérer. Et comme on ne sait plus gérer, bah, du coup, moi, je comprends les hypersensibles. J'en ai beaucoup. Il y a voilà une notion aussi de d'être très sensible en fait à la lumière, au son, de capter en fait énormément d'informations autour de soi, donc ça peut être très désagréable, etc. Le seul sujet moi qui m'embête avec ça, c'est que ça, on tombe dans la victimisation en fait j'ai trop d'émotions, je suis spéciale, mais de toute façon je suis un artiste, je suis incompris du monde, etc. Donc là pour le coup voilà. Donc énormément de manipulations sur le sujet, il y a des coachs qui pullulent de partout, ça pousse comme des champignons, et du coup c'est un monde que je suis moi-même encore en train d'appréhender et d'essayer de faire le tri entre ce qui est juste, vrai, scientifiquement valable, etc. Ce que tu disais par rapport aux enfants, c'est un vrai cadeau de donner aujourd'hui les enfants les outils pour pouvoir exprimer leurs émotions. Il y a une petite référence que je partage, la bulle des émotions. C'est un organisme aujourd'hui qui justement forme en fait les thérapeutes, les sophrologues, les hypnothérapeutes, etc., qui accompagnent les enfants à mieux exprimer leurs sentiments. Quand un enfant sait poser le doigt en fait sur une émotion, il est capable de plus la communiquer. Il développe des facultés d'empathie et en plus de manière inconsciente, en fait, il digère son émotion. Parce qu'un enfant qui garde une émotion à l'intérieur de lui, il va créer une boule dans le ventre, va créer un mal-être, va créer un nœud au fond de la gorge et va provoquer d'autres sentiments d'irritabilité, de je suis pas compris. Et ça nourrit dans le temps, ça peut en fait engendrer des comportements. C'est pour ça qu'on en arrive justement à des adultes. Aujourd'hui, les adultes, effectivement, comme on n'a pas été outillés, comme justement les mecs doivent pas pleurer, les meufs, en fait, doivent se taire et se calmer, et sinon c'est des pleurnicheuses, etc. Comme on a reçu tellement d'injonctions et on a baigné là-dedans, je pense, dans les années 60, 70, 80, 90, jusqu'aux années 2000, en fait, on n'est pas outillés en tant que parents. Donc aujourd'hui, il y a des parents qui se renseignent, qui font de leur mieux et donc qui posent les diagnostics.
Alors, je pense qu'on n'est pas outillé d'une part, là je vais un peu élargir le sujet, mais surtout je trouve que les parents actuels, on dévie complètement du sujet initial du podcast, mais c'est intéressant, confient l'éducation de leurs enfants à la télévision et également à l'école. Et je trouve qu'aujourd'hui, les parents ne sont plus investis réellement dans leurs enfants, en fait. Tim.
Je sais pas. Ouais, je
C'est
sais pas, je
l'expérience
suis
que
pas
j'en ai
parent
auprès
pour
des amis,
la.
effectivement, qui ont des enfants, où au final,
Ouais.
les enfants sont scotchés devant les écrans H24.
Oh, mais c'est terrible.
Ah, mais c'est terrible. Après, il y a les conséquences en plus liées aux écrans que l'on connaît très bien. Déjà, un enfant avant 3 ans doit avoir zéro écran. C'est une recommandation, ça ruine le cerveau.
Ah, mais c'est clair. Et aujourd'hui, je regardais des statistiques sur les 10 dernières années. Je lisais un rapport sur la méditation. Aujourd'hui, on a 3 fois plus d'adultes qui méditent, mais on a 10 fois plus d'enfants qui méditent.
À la fois, c'est beau, mais à la fois, c'est triste d'arriver là aussi.
Ah bah oui, moi j'ai
Donc,
pas médité quand j'étais gosse,
ouais.
enfin j'avais pas envie.
Moi, je vais être dehors, je vais,
Je...
etc., des bâtons, mais. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et là, je suis en aparté rapide, je place un produit, par contre, j'ai plus le nom. Malheureusement, je mettrai en description, je vais me le noter. Boîte à images. En fait, j'ai découvert ça sur le podcast Génération Do It Yourself, où c'est une maman qui a créé ce qu'elle appelle, je crois, la lanterne à images, il me semble, en fait. C'est un vidéoprojecteur pour enfants qui diffuse des dessins animés déjà donc sans lumière bleue, parce qu'on est sur un vidéoprojecteur, on n'est pas sur un contact direct avec les écrans, et des dessins animés qu'elle a fait en sorte, dont elle a fait en sorte, peu importe comment on explique les choses, qu'ils soient tournés à une vitesse plus réelle. Parce que l'heure actuelle, un dessin animé pour enfants, c'est quoi? C'est des flashs partout, c'est des sons partout, ce qui hyper stimule les enfants. Et on s'étonne souvent qu'après un dessin animé, un enfant soit surexcité ou pète un câble parce que le dessin animé s'arrête. Sauf que les dessins animés sont faits pour stimuler un maximum, comme nous, les adultes. Quand on va sur YouTube, constamment, t'as des pop-ups, t'as des images, t'as des trucs, etc. Les vidéos aujourd'hui sont constamment coupées, accélérées, avec des sons, des textes, etc. Et maintenant, les enfants également se voient imposer ce même mode de consommation d'images. Et elle a pris le parti de faire l'inverse. D'avoir des images très lentes, très posées, des sons très doux. Et les résultats, paraît-il, sont juste géniaux avec les enfants. Il n'y a plus de crise, ça les apaise, ça les détend.
Ouais.
Donc je pense également que, effectivement, les écrans, parfois, en tant que parent, c'est une solution simple. Parce que l'enfant, au moins, il est plus dans tes bottes, très clairement, parce que certains enfants sont très compliqués, dont un des miens. Et des fois, mettre devant un écran, tu dis, OK, ça soulage un peu. Sauf qu'on leur fait du mal. Mais qu'une solution comme celle-ci, si à nouveau tout ce qu'elle dit est vérifié, parce que je ne l'ai pas encore validé à mon niveau, ça peut être une très bonne solution pour lier le meilleur des mondes. Le côté avec un dessin animé apaisant, relaxant, presque méditatif par moment, et le côté aussi détente des parents.
Ah mais très clairement, super idée. Il y a aussi des boîtes à histoires.
Oui, j'ai la Luni à mon niveau qui est très très bien pour les enfants aussi, ouais, qui est très bien.
Après, toi tu dis on dévie du sujet, mais pas totalement, parce que en fait, donc on a parlé d'activation du nerf vague, mais un nerf vague qui est surstimulé, qui est suractivé, c'est pas bon non plus. En fait, il faut juste une juste régulation. Et quand on gère mal ses émotions et qu'on les cristallise dans le corps, en fait, une émotion, c'est une information corporelle. Une information corporelle qui n'a pas été conscientisée, qui n'a pas été digérée, en fait, elle reste là. Et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, une émotion qui grossit, et qui devient en fait frustration, à terme, c'est un blocage. Et là, on rentre dans les blessures émotionnelles, et on peut dévier sur énormément d'autres choses, etc. Et chacun va avoir son schéma, et ça va construire la personnalité. Donc, sujet illimité, sujet passionnant. Je pense qu'on est de plus en plus conscient de ça. Le revers de la conscience, c'est qu'on en parle de plus en plus, et donc il y a de plus en plus d'injonctions. Mais je dirais... C'est un moindre mal par rapport à juste vivre dans un monde stressé et qui va en s'empirant, quoi.
Il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais rebondir maintenant. Tu as partagé une ressource précédemment, une asso, c'est ça ?
La bulle des émotions. Alors, je ne pense pas qu'ils aient le statut de l'émotion d'une association. C'est un organisme qui forme, en fait... par exemple, donc moi, je suis sophrologue, hypnothérapeute en plus. Si je me fais former par eux, bah, j'aurai des outils pour accompagner les enfants en bas âge.
Non,
la bulle des émotions. Ouais, et ils ont plusieurs centres partout en France.
Ok, je vais creuser ça. À mon niveau, je vais partager un livre qui est très bien pour enfants, qui s'appelle Gaston. C'est une série, c'est une petite licorne, en fait, qui a... C'est bizarre de parler de ça en podcast, je l'ai conscience, mais peu importe. Qui a une crinière qui change de couleur selon ses émotions. Et en fait, à la fin de chacune des histoires, tu as un exercice de sophrologie pour les enfants.
Ok.
Par exemple, c'est la colère. Comment chasser la colère grâce à la sophro, tu vois.
Ouais.
Donc c'est une ressource très intéressante. Et tu parlais tout à l'heure aussi d'hypersensibilité par rapport au son et aux lumières, et là je ne peux que conseiller aux personnes qui sont sensibles par rapport à ça, moi c'est le cas par rapport à la lumière vive, de conseiller aussi un posturologue, de consulter un posturologue. Qu'est-ce qu'un posturologue? C'est une personne qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à la posture. En fait, on a remarqué de façon scientifique que la posture est à la base de tout, même de l'apprentissage. On reboucle avec un élément qui a été évoqué durant le podcast, à savoir la notion de survie. Si le corps est constamment en déséquilibre par rapport à une mauvaise posture, forcément, il est constamment en danger. Donc, à nouveau, beaucoup d'énergie est allouée à la correction de cette posture-là. À nouveau, c'est une énergie qui ne sera pas disponible pour la cognition, pour la productivité, pour la gestion des émotions aussi. Et la posturologie, moi, j'en fais actuellement, je suis suivi par rapport à ça parce que j'ai des problèmes par rapport à ça. Problème, ça fait un peu handicap dit comme ça, mais non, c'est, tout le monde a des problèmes par rapport à ça. On est tous avec des problèmes de posture. Et j'ai vu de nettes améliorations grâce à ça. Et à nouveau, c'est un outil qui est juste génial et qui est transparent. Je fais quelques exercices au quotidien et ça m'aide énormément.
Oui.
Et ça peut également aider un enfant à l'heure actuelle. Et je pense que consulter un posturologue aujourd'hui devrait être vraiment une recommandation de base à l'heure actuelle, quoi.
Oui. Bah, il y a énormément, je pense, de métiers comme ça qui se multiplient. Avant, on connaissait juste le kiné, l'ostéo. Et puis, on s'arrêtait là. Aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de disciplines qui sont toutes intéressantes, de plus en plus nichées. Et donc de plus en plus d'expertise. Pendant que tu parlais, j'ai pensé à un truc qui m'échappe par rapport à la... Ah oui, ça y est, ça m'est revenu. Par rapport, en fait, quand tu dis je fais quelques minutes par jour, alors je sais pas si tu connais James Clear.
Bien sûr, Atomic Habits.
Et ben ouais, et ben je suis de la team de il faut avoir des micro-habitudes. Plutôt que de se mettre des objectifs de malade, du genre je vais méditer 4 fois par jour pendant un mois et puis après tenir une semaine.
Les fameuses bonnes résolutions du 1er janvier qui au final sont juste démentielles, j'arrête de fumer, etc. Autant dire je retire une cigarette par jour, quoi.
Ah bah oui. Et autant dire aussi, donc je fais mes exercices de posturologie 2 minutes par jour, j'écoute une chanson et je respire en conscience 3 minutes par jour. Et c'est un truc que je défends à fond parce qu'on apprend à appréhender. Et on inscrit dans sa mémoire, et y compris dans sa mémoire cellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur de son corps, des mécanismes qui mettent du temps à se mettre en place, tout comme il y a certains mécanismes qui ont mis des années aussi à se mettre en place, comme une mauvaise posture, une mauvaise hygiène, etc. Et donc, Clairement, James Clear, et c'est là où on fait le lien du coup avec le développement personnel, les outils de coaching et
Complètement.
tout. Donc, bref.
Et conseil par rapport à ça, vos nouvelles habitudes, ancrez-les par rapport à une habitude fixe. Typiquement, c'est faites ceci après votre réveil. Tous les jours, vous vous réveillez. Un jour, non, mais bon, ça, on va pas en parler. Mais tous les jours, on se réveille. Donc forcément, si on ancre une habitude juste après, il y a le déclencheur qui est permanent. Pareil pour le lavage de dents, pour le passage à table, pour la voiture ou autre. Dès qu'on ancre ça par rapport à l'habitude qui est permanente, ça donne un phare en quelque sorte auquel on se raccroche pour la nouvelle habitude.
Exactement.
Et pour reboucler encore, le podcast s'éternise, mais j'aime beaucoup, par rapport à la posturo, connais-tu la notion de réflexe archaïque aussi, ça te parle?
Non.
C'est juste passionnant, je
Qu'est-ce que
t'invite
c'est?
à creuser ce sujet-là. J'ai été formé à mon niveau par Emma Gomez, une experte dans ce domaine-là. En fait, qu'est-ce que c'est qu'en enfant, on passe par un total, je crois que c'est 26, mais j'en suis pas sûr, peut-être plus. Peu importe le nombre, on s'en fiche, c'est pas le but, de ce qu'on appelle du coup des réflexes archaïques. C'est des réflexes chez l'enfant, chez le nourrisson précisément, qui sont nécessaires. Typiquement, le plus connu, c'est le réflexe de Moro. Moro, c'est quoi? Quand tu lâches un enfant ou tu fais semblant de le faire tomber, automatiquement, il écarte les bras et les jambes. Même durant la nuit, il le fait très souvent. Ça vient de quoi? D'après ce que j'en sais, il vient du fait que quand on était des primates encore à l'époque, quand on tombait d'un arbre, écarter les bras permettait de se raccrocher à des branches potentiellement, donc de survivre. Donc tu as plein de réflexes comme ça qui existent. Typiquement, tu as un réflexe qui fait quand on pousse une personne, elle met un pied naturellement en avant pour se rattraper, pour ne pas chuter. Et en fait, ces réflexes-là, s'ils ne sont pas intégrés dans le corps humain, s'ils font défaut, c'est le cas de ma grand-mère par exemple, quand je fais un bruit sourd, ma grand-mère, hop, mort automatiquement, elle a peur, elle écarte les bras. Et donc, s'ils ne sont pas intégrés, ça crée également des stress dans le corps humain. C'est comme si tu avais en fait des étapes à valider pour un concours qui n'étaient pas validées. À la fin, ça te pénalise. Et en tant qu'adulte, on peut les réintégrer en faisant ce qu'on appelle des schèmes. Un schème, c'est quoi? C'est refaire ce geste-là, mais tout doucement. Pour justement faire comprendre au corps que ce mécanisme existe. Après, si on le fait à l'envers. Alors là, à la caméra, j'écarte les bras et je les ferme. Il n'y a que Sarah qui me voit, heureusement. En faisant ça, tu vas réintégrer ce réflexe-là. Et donc, à nouveau, tu auras une dépense énergétique qui sera moindre au quotidien. Donc c'est un domaine qui est vraiment passionnant, les réflexes archaïques, et que j'invite vraiment tout le monde à creuser, au moins à toucher du doigt, quoi.
Bah du coup en fait on manque pas de voilà on manque pas de solution de se faire du bien hein. C'est juste qu'il faut tirer je pense le bon levier de motivation voir ce qui fonctionne pour soi ce qui nous fait du bien et avancer
Et faire les
et
choses,
ça
ouais.
sert bah ouais
Faire les choses.
au bout d'un moment c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà l'errance thérapeutique moi c'est quelque chose enfin qui me chafouine un peu parce que vous avez des personnes qui ont consulté 90 professionnels et qui sont jamais passées à l'action. C'est qu'au bout d'un moment, il y a quand même un bénéfice secondaire à pas passer à l'action. Et là, il faut tomber sur quelqu'un qui dégomme vraiment ça.
Ouais, c'est la procrastination intelligente. On a l'impression d'avancer, mais on n'avance pas.
Ouais,
Et une bonne solution aussi pour maintenir l'habitude, c'est prendre un simple calendrier et mettre des croix dessus dès qu'on fait l'habitude en question. Ou demander de créer une
visualiser.
chaîne d'habitude, une chaîne de croix, et le cerveau n'aimant pas les interruptions, on ne voudra pas la rompre. Moi, typiquement, c'est comme ça que j'en viens aujourd'hui à faire un journal de bord tous les soirs, et ça fait quasiment 2 ans non-stop que je le tiens, quoi. Et toi, ça fait
Bravo.
400 jours, là, presque, tu m'as dit tout à l'heure, que tu respirais de façon vraiment consciente et volontaire chaque jour, quoi.
Ah oui.
En fait, le plus dur, c'est amorcer les choses. Au bout d'un moment, on va atteindre le point de bascule qui est génial, qui va être le fait que c'est plus compliqué pour nous de ne pas faire l'habitude que de la faire. Et quand c'est comme ça, en fait, on a gagné, quoi.
J'ai quand même quelques personnes qui aujourd'hui me disent mais ce qu'on fait est, avec toi est addictif. Donc, moi du coup forcément
Cool.
ça brosse mon ego tu vois. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes en fait c'est surtout qu'elles sont en train de devenir addictes à leur état de bien-être et ça c'est un vrai cadeau.
Endorphine.
C'est une fois bah ouais. Et quand on ressent ça bah, on a envie de recommencer quoi. Et on sait que bah, on a trouvé le bon truc pour soi et c'est cool.
Je pense qu'on arrive au bout.
Yes.
T'as encore des choses à rajouter, Sarah?
Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que ça a été intéressant. Et après, je réponds, voilà, si les personnes qui nous ont écoutés ont d'autres envies, d'autres questions, des précisions à avoir, je réponds sur les réseaux sociaux. Je suis joignable sur Instagram ou sur LinkedIn, Sarah, Sa2ra, Saidi. Et je pense que tu mettras les liens qu'il
Je
faut.
mettrai les liens, ouais. Et
Je te les enverrai.
pour conclure, peux-tu parler de ton atelier, du coup, non pas en présentiel, mais
En ligne.
en ligne, en direct, c'est le mot que je cherchais, en
En
direct.
direct.
Peux-tu en parler un peu
Ouais.
plus, du coup, pour les gens potentiellement intéressés, comment ça se passe? C'est toutes les semaines, tous les mois, tous les 15 jours, comment s'inscrit?
Toutes les semaines, on se réunit pour un atelier de respiration rythmée.
C'est quel
Donc, c'est une
jour?
respiration, c'est le lundi, le mercredi ou le jeudi, et je les fais tourner, histoire
D'accord.
de toujours trouver une disponibilité au moins une fois par mois.
Midi, soir?
C'est à 19h.
Ok, voilà.
Donc c'est une respiration rythmée en musique. Le principe, c'est que les personnes se connectent et vivent justement une chorégraphie respiratoire qui compresse, décompresse, libère les émotions, d'introspection, de coaching. Donc c'est une méthode que j'ai développée en mixant toutes les disciplines et tout ce que j'ai appris et que je vais reconduire donc sur l'année 2023. Et le planning est disponible sur mon site toujours avec 2 3 mois à l'avance histoire de s'organiser. Tu vois, c'est 30 euros la session. Le principe, c'est la carte. Tu te connectes quand tu as envie, totale liberté. Je responsabilise vachement sur le bien-être. Je ne suis pas là pour faire le suivi, pour rendre ça obligatoire. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ça va tellement taper dans le cœur, tu sais, de oh, je me suis sentie tellement bien qu'en fait, la démarche de prendre soin de soi se met en place. Et là, je travaille sur un membership en mode illimité pendant 6 mois. Pour justement faciliter les réservations et toujours garantir les places des personnes qui veulent prendre soin d'elles pendant les 6 mois qui viennent.
Membership au cas où, abonnement.
Oui.
Pour les non familiers des termes un peu marketing et anglophones.
C'est vrai
Génial.
qu'on tombe vite dans le monde marketing.
Oui, c'est ça. Du coup, je mettrai le lien également en description. Donc, les gens payent leur ticket d'entrée, grosso modo, et ils y viennent quand ils veulent.
Exactement.
Ok, super.
Totale liberté et flexibilité. Il n'y a pas de contraintes à avoir pour une discipline.
Et on
C'est
est OK,
chouette.
c'est pas enregistré rien, etc. C'est pas
Ah
rediffusé.
non,
Après,
du
voilà,
tout.
c'est juste personnel, c'est un moment d'introspection, on
C'est
va dire.
personnel et même si c'est collectif, en fait, le collectif permet l'énergie groupe, permet pour moi d'optimiser les sessions. Mais en fait, même pas besoin de parler de sa problématique. Après, on peut en parler en privé et je garde toujours un moment d'échange avant ou après la session. Parce que beaucoup de personnes apprennent le collectif en disant oh, mais j'ai pas très envie de parler de moi et tout. En fait, non.
Oui,
Ce
c'est
qui est
pas une
génial
thérapie,
avec
quoi. C'est
la.
pas une thérapie vocale, c'est pas du freudien, quoi, on va dire. C'est pas allonge-toi
Ah
sur un
non.
divan, on va parler.
Ah non, non, c'est non verbal. Non, vraiment, je pense que ce qui s'en rapproche le plus, c'est un cours de. Ouais. C'est un cours de
De
yoga.
pilates, yoga, voilà.
Ouais, exactement. Pas besoin de parler, ressentir et se voir se transformer de l'intérieur.
Ok. Mais merci pour ton temps,
Ben avec plaisir.
pour ton apport de connaissances. J'ai beaucoup apprécié l'échange qu'on a eu ensemble.
Merci beaucoup, c'est pareil.
Qui était très naturel.
Réciproque et merci beaucoup pour l'invitation.
Avec plaisir. Et bah voilà, bah, nous on reste en relation. Et puis sinon, j'invite du coup les différents auditeurs à simplement aller plus loin s'ils le veulent, avec les liens présents en description.
Yes.
Merci, Sarah.
Merci beaucoup,
À très
Jérémy.
vite.
À plus.
Salut.